Bonjour à tous, je vous invite à reprendre donc notre série sur le livre de 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, nous sommes au chapitre 15, nous allons lire du verset 9 jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 9 au verset 11. La parole de Dieu nous dit « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. » Prions. Seigneur, nous voulons te remercier tout simplement parce que tu nous donnes l'occasion de nous plonger dans ta parole, Seigneur, de comprendre cette grâce que tu nous donnes, Seigneur, ce don immérité. Merci Seigneur parce que tout ce que nous voulons faire, ce n'est pas pour nous-mêmes, Seigneur, ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas de notre énergie, Seigneur, de notre capacité, mais tout est par toi. Et c'est toi, Seigneur, qui doit être le centre encore aujourd'hui. Nous te remercions pour cela, nous te remercions parce que si nous pouvons faire quelque chose, eh bien, c'est pour ta gloire. Si nous pouvons agir dans l'Église, agir, Seigneur, dans notre vie personnelle, c'est par toi, par toi-même, Seigneur, pour ta gloire, encore une fois. Et merci, Seigneur, puisque ton Église, Seigneur, c'est toi qui règne dessus, c'est toi, Seigneur, qui attribue à chacun une place, Seigneur, c'est toi qui fais tout, en tous, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes conscients que nous devons simplement d'accepter, Seigneur, ta volonté, de nous soumettre, Seigneur, à ta volonté, car, Seigneur, ta parole contient ta volonté. Et, Seigneur, nous voulons simplement l'écouter. Parle, car tes serviteurs écoutent. Parle, Seigneur, car nous avons besoin, nous avons soif, Seigneur, d'entendre cette parole de vie. Et que, Seigneur, cette parole de vie puisse amener ta gloire, Seigneur, au milieu de l'assemblée, au milieu de chaque personne présente. Donne à chacun sa part, que chacun puisse, Seigneur, être édifié par ces mots. Et que chacun, Seigneur, puisse, à la fin de ce culte, te glorifier et se rendre compte, Seigneur, qu'il n'y a que toi, le Dieu vivant, Seigneur, qui est la solution de nos vies. Que toute la gloire te soit rendue, aujourd'hui comme au siècle des siècles. Amen. Alors, lorsque l'on prend ce livre de 1 Corinthiens, on constate quand même que il y a Christ qui est au centre, mais la parole nous a laissé aussi des personnes qui sont des modèles eh bien, à suivre parce qu'ils ont suivi Christ. Et Christ nous a laissé ces personnes pour comprendre comment nous devons nous comporter. Ainsi, on peut prendre un passage qui se trouve en Hébreux chapitre 13, verset 7. Il nous explique que nous devons nous rappeler ou nous souvenir de certaines personnes. Hébreux chapitre 13, verset 7, je vous le lis. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Imitez la foi de qui? Eh bien, de ces conducteurs qui ont annoncé la parole de Dieu. Et considérez quelle a été la fin de leur vie. Pas le début, mais la fin. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui et c'est ce que Dieu fait dans sa parole. Il nous présente des conducteurs et il nous présente la fin de leur vie. Et il nous demande d'imiter leur foi. Et ici, celui qui est le conducteur, qui a annoncé la parole de Dieu, celui qui dit ces mots que nous avons lus dans 1 Corinthiens 15, 9 à 11, c'est Paul. Et Paul, depuis le début de cette lettre, il nous partage sa vie. Il dévoile son ministère, ses difficultés auprès de ceux qu'il aime, de cette église de Corinthe, qu'il a fondée, dont il a pris soin. Et il a pris du temps, son énergie, à se dédier à enseigner selon les ministères que Christ lui a donnés. Car c'est Christ qui lui a donné un ministère, il est apôtre. Et on va reprendre un peu des versets qu'on a déjà vus auparavant, qui parlent de son ministère, mais c'est pour nous rappeler un petit peu quelle était sa manière de travailler, pourquoi il le faisait et en quoi nous pouvons l'imiter. Nous devons nous rappeler déjà en 1 Corinthiens chapitre 4, On peut lire déjà du verset 11 jusqu'au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 11 à 14, où nous lisons « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. » Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Voilà comment Paul expose sa vie, son ministère, ses besoins, mais surtout son attitude face à ces situations. Et l'attitude de Paul ne dépend pas de la situation. Les gens lui font quoi ? Ils les maltraitent. Ils lui font quoi ? Ils l'injurient. Ils lui font quoi ? Ils le persécutent. Ils lui font quoi ? Ils le calomnient. Mais Paul ne répond pas à la manière des hommes. Normalement, on nous maltraite, œil pour œil, dent pour dent. Nous, on applique la loi. Celui qui me maltraite, je le maltraite. On nous injurie, très humain, on répond, on va injurier. On nous persécute, on va se réfléchir même comment persécuter l'autre pour lui rendre ce qu'il nous a fait. On nous calomnie, on va aussi parler de la personne, eh bien, avec le but de le nuire. Mais ici, Paul... Son ministère, c'est déjà vivre par l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous sommes libérés de répondre de cette manière. Et au lieu de répondre par le mal, eh bien, on répond par le bien. Nous sommes maltraités, errants ça et là, eh bien, nous allons travailler de nos propres mains. Pour tout le monde, même pour ceux qui nous maltraitent. Nous sommes injuriés, eh bien, on va les bénir. Nous sommes persécutés, eh bien, on va les supporter. Nous sommes calomniés, eh bien, nous allons parler avec bonté. Et ça, c'est la force de l'Évangile. Transformer la vie d'une personne qui, en temps normal, ferait le mal, mais il n'est plus sous l'emprise du mal, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il peut agir en répondant par ce qui est bon. Et c'est par ça que Paul vit son ministère. Il ne fait pas attention à la situation, il fait attention à vivre l'Évangile. Et c'est l'appel qu'il nous adresse, que nous apprenions à vivre par l'Évangile. Et il le dit, hein, verset 16, donc qui sont dans les versets suivants. C'est pas parce qu'il le fait lui, parce qu'il est apôtre et que c'est sa capacité. Non, c'est pas une capacité. Il dit, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Ça veut dire qu'il ne nous appelle pas à l'observer pendant qu'il pratique son ministère et à dire « Ah, qu'est-ce qu'il est fort ce Paul !» Mais il dit « Soyez mes imitateurs !» Ça veut dire que cet évangile, elle est capable de vous faire faire exactement ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Vivez par l'évangile, c'est par elle que je vis. Et c'est un exemple. Une personne que l'on doit imiter, vivre une autre vie, la vie de Christ. C'est la marque du salut. Et il faut la vivre où ? Au milieu des querelles, des disputes, des attaques. Et c'est ce que vivait Paul au milieu de Corinthe. Il était attaqué, il y avait des querelles, il y avait des disputes. Mais ça ne l'a jamais empêché de mettre en pratique l'Évangile. Au contraire, la solution, dans sa vie d'abord, c'est de vivre par l'Évangile. Et ce n'est pas que ça. Il en parle encore. Chapitre 10, verset 31 à 33, il va parler de son ministère. Et il va dire quoi encore ? Chapitre 10, verset 31 à 33, on va lire. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour. Pourquoi ? Pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses, à complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Voilà encore comment Paul expose sa vie, sa vision, son savoir-vivre selon l'Évangile. Comment est-ce que l'on doit vivre ? Au milieu de tous, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est une leçon qu'il nous donne. Toute sa vie, pourquoi est-ce qu'il fait quelque chose ? quelle que soit l'action, c'est pour la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un savoir-vivre qui vient de la parole de Dieu, de l'évangile. Et ce n'est pas mon savoir-vivre, ce n'est pas ma culture, ce n'est pas mon avis, mais c'est ce qui glorifie Dieu. Je regarde à ce qui glorifie Dieu. Et qu'est-ce qui glorifie Dieu? Eh bien, c'est de ne pas scandaliser les Grecs, les Juifs et l'Église de Dieu, mais chercher quoi? L'avantage du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. C'est ce qu'il dit, hein? Comment tout faire pour la gloire de Dieu? Je m'efforce en toute chose à complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'ils soient sauvés. Et quel appel est-ce qu'il nous adresse dans tout cela? Que nous apprenions à vivre pour l'Évangile. Il le dit encore au verset 1er du chapitre suivant, donc 1 Corinthiens 11, verset 1er, il répète quelque chose et ajoute « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, on voit un homme qui vit par l'Évangile, mais qui vit aussi pour l'Évangile. Donc, imitons-le, vivons pour l'Évangile, ne vivons pas pour nous. Et comme qui? Comme il est lui-même l'imitateur de Christ. Et Christ n'a pas vécu pour lui sur cette terre, il a vécu pour nous. Et il est disciple de Christ. Il dit, soyez comme moi, soyons des disciples de Christ. Et être disciple de Christ, c'est quoi? Vivre pour l'Évangile et non pour notre avantage. Vivez pour l'Évangile, c'est pour elle que je vis. Et ça a un nom, c'est ce qu'il explique dans les chapitres précédents. C'est quoi vivre? Eh bien, pour complaire à tous, vivre pour le salut du plus grand nombre, vivre pour l'Évangile, c'est aimer et édifier. C'est ce qu'on peut appeler la marche de l'Esprit, ayant pour fruit quoi? Son amour. Et c'est ce que nous avons vu au chapitre 13. Alors, quand les Corinthiens se glorifient de leur connaissance et de leurs dons, de leur capacité à prophétiser, à enseigner, à parler diverses langues, à faire des miracles, guérir, diriger, ils oublient d'où ils tirent cette capacité. Ils le tirent de la marche de l'Esprit. Et parfois, nous sommes un petit peu comme ça. Nous ne vivons pas pour l'Évangile, nous vivons pour notre capacité à faire les choses. Celui qui œuvre pour le Seigneur devrait résumer sa vie nouvelle en Christ à ces deux phrases. On l'a déjà dit, vivez par l'Évangile, c'est par elle que je vis. C'est une vie qui se sanctifie en Christ. Vivez pour l'Évangile, c'est pour elle que je vis. Une vie qui aime comme Christ. Et il s'agit pour nous, comme pour les Corinthiens, de comprendre comment vivre cet Évangile pratiquement, comment le mettre en œuvre au milieu de notre assemblée. Dans cette lettre, comme dans les autres lettres, Paul expose sa vie comme un modèle pratique pour le troupeau. Soyez mes imitateurs. Et cette expression, elle n'est pas que dans Corinthiens, il la redonne dans d'autres lettres, Philippiens, Thessaloniciens. Et il ne dit pas ça parce qu'il pense être quelqu'un de très haut, plus élevé que les autres, un modèle en tant qu'homme parfait, sans péché. Il n'y a que Christ qui est ainsi parfait et qui a toujours été parfait. Mais Paul est un modèle pratique. Est-ce que vous savez pourquoi Paul est un modèle pratique? Vous savez, imiter Christ, c'est le but. Mais il y a une différence quand même. Christ a toujours été et sera toujours, comme on a dit quoi? Parfait. Par contre, Paul, il est comme nous. Il est parti de pécheur et il tend vers Christ. Donc pour nous, c'est de comprendre, avec ces modèles de foi, de comprendre comment on peut progresser pratiquement dans l'Église. Et Paul est un modèle pratique pour les gens comme nous, des gens qui ont besoin de grandir dans la sainteté, grandir dans l'amour. Est-ce que Jésus-Christ a besoin de grandir dans la sainteté et Jésus-Christ a besoin de grandir dans l'amour? Non. Donc on sait que c'est la perfection, que c'est le but à atteindre. Mais comment faire? Eh bien, Paul dit « Soyez mes imitateurs ». Il est comme nous, un pécheur comme nous, mais la parole témoigne de sa vie pour Christ. Paul, comme nous, nous sommes des personnes qui ont besoin de nous appuyer sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour vivre et servir. Des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu pour être une personne autre que ce qu'il était à l'origine. Si Christ peut dire « Je suis », Paul, comme nous, doit apprendre et dire « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Et c'est le texte que nous avons en 1 Corinthiens 15. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». C'est ce qu'il dit. C'est ce que dit Paul. Et à la fin de ce message, nous devrions conclure une réponse simple. Moi aussi, je veux vivre comme Paul, vivre par la grâce de Dieu. Et ma question première pour chacun d'entre nous, c'est qu'est-ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui ? Et je n'ai pas besoin de la réponse, mais vous la connaissez. Dites-moi, quelle est la première pensée qui vous vient à la tête ? Qu'est-ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui ? Certains vont dire mes origines, ma culture, mon éducation, ma religion, quoi d'autre encore ? Mes pratiques. Mais on va voir si c'est vraiment ça qui peut faire de nous ce que l'on doit être normalement. Et vous savez, dire « je suis ce que je suis », tout le monde peut le dire. Si je vous dis « qui êtes-vous à vos yeux ?», beaucoup peuvent répondre « je suis ce que je suis ». Et tout le monde peut dire « voilà, je suis comme ça, je suis ce que je suis ». Et on peut le dire de différentes manières, soit avec résignation, soit de manière active. Je n'y peux rien, je suis ce que je suis. Ou dire, je me suis fait moi-même, je suis ce que je suis. Et c'est la manière dont on se définit, soit par résignation, soit parce qu'on pense pouvoir devenir ce que l'on veut. Hein, se résigner, c'est accepter, ou plutôt se résigner, c'est se dire, bah, rester dans l'état dans lequel on est. C'est la vie, tant pis. Je suis ce que je suis. Ou quand on veut vouloir devenir autre chose absolument avec nos forces, c'est se battre pour devenir quelqu'un. C'est ce que beaucoup font aussi. Je peux devenir ce que je veux. Et dans ce monde, on peut voir les gens se définir suivant ces deux voies-là, deux manières de faire. Et par exemple, on peut se définir par nos origines aussi. Notre culture. Je suis ce que je suis car je suis français. C'est normal si je râle, si je n'aime pas l'autorité. Ben, qu'est-ce que tu veux, je suis français. Je suis ce que je suis. Ou je suis ce que je suis malgache. Ben, les malgaches sont toujours en retard. Donc je suis ce que je suis, je vais être en retard. Les malgaches font tout doucement. Donc je vais tout faire doucement. Les malgaches ne parlent pas. Donc je ne vais pas parler. On se résigne à mener cette vie, celle d'un malgache. Je suis ce que je suis. Et les Français, comme tous les Français, ont un esprit cartésien. Je suis ce que je suis. Je suis français, j'ai un esprit cartésien, j'ai besoin de faits rationnels pour croire. C'est ainsi que je construis ma vie. Je peux construire ma vie en étant cartésien. Ou comme un malgache, je suis malgache. Je suis ce que je suis et je peux pratiquer le retournement de mort. C'est ma croyance. Je suis ce que je suis malgache, je ne peux pas faire autrement. C'est ainsi que je veux vivre ma vie. Et c'est ce que faisaient aussi les Corinthiens. Je suis ce que je suis un Corinthien. C'est normal que je vive à la Corinthienne, ce n'est pas de la débauche, c'est notre vie. On se résigne à pratiquer la vie des Corinthiens. Je suis Corinthien, et les Corinthiens sont des Grecs, et comme tout Grec, on aime débattre, on aime philosopher. Chacun son courant de pensée, c'est ainsi que je construis ma vie. Ici, ce qui nous définit, c'est notre culture ou notre origine. Je n'y peux rien, je suis ce que je suis, c'est comme cela que l'on fait là d'où je viens. Mais on peut se définir aussi par une religion. Je suis musulman, je suis juif, je suis athée, je suis bouddhiste, je suis chrétien. Et même chez les chrétiens, je suis protestant, je suis catholique. Et nous le sommes de génération en génération, on ne va pas changer ce qu'on est. Je suis ce que je suis. On lie la religion même avec l'origine, on peut faire du double pour se définir. Souvent on dit, à votre avis, un arabe, c'est quelle religion ? Tout le monde répondra quoi? Ben, musulman. Et un israélite, c'est quelle religion? Ben, c'est juif. Et un français, c'est quelle religion? Ben, catholique. Et chinois, c'est quelle religion? Athée. Et tibétain, c'est quelle religion? Bouddhiste. Et c'est comme ça, c'est je suis ce que je suis. Donc, je suis destiné à être quoi? Je me résigne à être musulman, juif, catholique, athée. Parce que je suis arabe, israélite, français, chinois. Je suis ce que je suis. Ici, ce qui nous définit, c'est notre religion. Notre religion plus notre origine même. Et on se résigne à cela et on construit notre vie en disant je suis ce que je suis. On peut se définir aussi par notre parcours de vie, notre expérience. Je suis ce que je suis par les gens que j'ai rencontrés. Je suis ce que je suis parce que mes parents ont agi comme ceci ou comme cela, parce qu'ils m'ont éduqué comme ci ou comme cela. Je suis ce que je suis car j'ai grandi dans le ghetto, dans la cité, dans les beaux quartiers. On se définit même par nos fréquentations. Suis-je en suis là, c'est à cause d'un tel ou un tel. Même dans notre pratique. Je suis ce que je suis parce que j'ai réussi dans la vie, dans mon travail, socialement reconnu. Je suis quelqu'un. Si je ne suis pas cadre, dirigeant, je ne suis rien à moins que rien. Voilà aussi ce que l'on peut dire. Je suis ce que je suis à cause de mon travail. Et même parfois, les gens maintenant se définissent par leur orientation sexuelle. Je suis ce que je suis. Je suis gay. Je suis homo. Je suis ce que je suis. Je suis bi. Je suis ce que je suis. Hétéro, les gens manifestent même pour montrer que c'est ce qu'ils sont. Mais ça, c'est notre regard sur nous. Et notre regard sur nous, il n'est pas toujours bon ou vrai. Et nous acceptons ce regard sur nous et le regard que les autres ont sur nous. Et la question que je vous pose aujourd'hui, qu'êtes-vous à vos yeux? Qu'est-ce qui vous définit? Que répondriez-vous à cette question? Les Corinthiens étaient grecs. Et vous connaissez ce verset? Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Qu'est-ce qui définit les Grecs? Ils cherchent la sagesse. Donc, ils aiment la philosophie. Le terme « aimer la sagesse », ici, ce n'est pas forcément positif. C'est quelqu'un qui aime la sagesse. Donc, il cherche la sagesse, mais les courants de pensée, la philosophie. Et ils vont sûrement répondre « Mais je suis ce que je suis. Je suis grec. » Et c'est comme ça que les Grecs sont. Et chez le Corinthien, la débauche n'est pas non plus un problème. C'est leur pratique. Que voulez-vous? Je suis à Corinthe, je vis donc à la Corinthienne. Je suis ce que je suis. Les Corinthiens étaient engagés dans différents ministères. La prophétie, l'enseignement, le cantique, la direction, les guérisons, les miracles, le parler en langue, l'interprétation. Et ils se disent « je suis ce que je suis », c'est-à-dire « je suis chacun de ces ministères ». Mais ils ont oublié que ce ne sont pas ces ministères qui définissent ce qu'ils sont. À nos yeux, nous nous regardons selon nos origines, notre culture, notre environnement, nos rencontres avec certaines personnes, nos pratiques, notre expérience. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce qui nous définit, ce que nous sommes, c'est avant tout ce que le regard de Dieu porte sur nous. C'est avant tout le regard que Dieu porte sur nous. Lui qui nous a créés, c'est réellement ce que nous sommes. Ce n'est pas notre regard, mais le regard de Dieu. Et cette résignation ou ce désir de se construire par notre vie, par notre propre regard, n'aura pour conséquence que le péché. Pourquoi? Parce que notre intelligence, notre regard est faussé. Nous sommes dans les ténèbres, nous ne pouvons pas voir qui nous sommes vraiment. Et Dieu, quand il nous regarde penser de cette manière, il nous voit comme des pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça que si vous continuez toujours à utiliser votre regard pour juger sur votre vie, sans compter sur le regard de Dieu, sur la parole de Dieu, vous arrivez toujours à pécher. Et le problème, c'est que ce sera toujours la mort qui vient derrière. Sans Dieu, nous sommes égarés. Nous amenons toujours le mal. Qui êtes-vous au regard de Dieu? Paul savait qui il était au regard de Dieu. Il le dit, verset 9, chapitre 15 de 1 Corinthiens dans notre texte. On peut même lire à partir du verset 8. 8, 9. Voilà le regard de Dieu sur Paul et le regard que Paul partage sur lui-même avec Dieu. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Un avorton, c'est un prématuré. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne devait pas vivre, mais qui a survécu. Et il est l'avorton. Vraiment, c'est celui-là, c'est un plus, quoi. Et normalement, il ne devait pas tenir. Et il dit, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Voilà le regard de Paul sur lui-même. Il est le moindre des apôtres, tout petit. Et il me dit même, non, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Ça veut dire que dans son statut, de sa personne, de ce qu'il a fait, de sa manière de vivre, il a une conclusion simple. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Personne ne peut dire, je suis digne. Et le problème des Corinthiens, c'est que c'est ça. Ils pensaient être dignes d'être prophètes, dignes d'être de ceux qui parlent les langues, dignes de guérir, dignes de faire des miracles, dignes de diriger, dignes de parler diverses langues. Et nous, dans nos églises, c'est pareil. On pense être dignes d'être à notre place. C'est pour ça qu'on persécute les autres. Pourquoi ? On dit, mais pourquoi ? Lui, il fait ça alors que moi, je suis plus digne que lui de le faire. Mais Paul, il va dire une chose simple. Je ne suis pas digne d'être quoi ? D'être appelé apôtre. Et ça, c'est son regard par rapport à sa connaissance de ce qu'il est au regard de Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. J'ai fait du mal. J'ai péché. Donc je ne suis pas digne d'être apôtre. Et dans l'assemblée, personne n'est digne de faire quoi que ce soit. La Bible lui dit que Dieu nous a aimés lorsque nous étions des pécheurs. Et auparavant, autrefois, nous étions quoi aussi ? Des ennemis. Donc nous étions des persécuteurs de quoi ? De Dieu et de l'Église de Dieu. On l'a tous été. Paul l'a été plus loin, peut-être, vous vous dites, mais j'ai pas fait ce que Paul a fait. Et pourtant, on voit qu'un homme comme Paul a été racheté. Et l'indigne est devenu celui qui a travaillé pour Dieu. Il est devenu l'envoyé de Christ alors qu'il était le persécuteur de l'Église de Dieu, le persécuteur de Christ. Et on voit une vie avant, une vie après. Sans Dieu, Paul conclut une chose. Il ne peut pratiquer que le mal. Et s'il doit dire « je suis ce que je suis sans Dieu », je suis quoi ? Un pécheur. Un pécheur qui va faire le mal. Alors je vous pose la question. Sous le regard de Dieu maintenant, comment vous voyez-vous ? Dans les ministères pour lesquels vous œuvrez, comment vous voyez-vous ? Méritant ou indigne ? Parfois, nous pensons que nous méritons de participer à l'œuvre de Dieu, que c'est un droit. Mais Paul nous le dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Et est-ce que nous pouvons avoir un autre regard sur notre ministère ou notre vie ? Est-ce que je suis digne de faire ce que je fais ? Personne n'est digne d'accomplir un quelconque ministère. Paul sait ce qu'il est aux yeux de Dieu. Je suis ce que je suis, celui qui a persécuté l'Église de Dieu. Pourtant, ça n'a pas toujours été son regard sur lui-même, ni celui des autres sur lui. Il était persuadé auparavant d'être de Dieu et d'agir pour Dieu. Vous vous rappelez quand même les origines de Paul. Paul était quoi ? Un pharisien, de la secte la plus rigide, la plus dure à pratiquer. Un homme réputé au milieu des Juifs. Et dans toute sa situation précédente, dans sa vie première, si quelqu'un pouvait se permettre de dire « je suis ce que je suis » et d'en être fier devant les hommes, c'était lui. Ah, quand même, il est de quelle origine, Paul ? Il est juif, donc du peuple élu. Et c'est quoi sa culture ? Il est pharisien. Et la loi, il la connaît bien ou il la connaît mal ? Il connaît bien. C'est quelqu'un qui a grandi au milieu du peuple d'Israël, qui a essayé de pratiquer toute la loi. C'est quelqu'un qui s'est tenu à avoir une culture qui est une bonne ou mauvaise culture. Une bonne, on dirait. Il est bien vu de tous et son expérience, on peut quand même dire que Paul, il a le meilleur CV de tous les apôtres. Ah, si tu regardes son CV, tu as été à quelle école ? Instruit au pied de Gamaliel. C'est qui Gamaliel ? Docteur de la loi, estimé de tout le peuple. Ah, c'est la meilleure école. Donc il a vécu la meilleure école. Ce n'est pas un pêcheur de poissons ni un collecteur d'impôts. C'est Paul, le jeune sourdoué, estimé du Sanhédrin. Et on pourrait regarder, mais oh, qu'est-ce qu'il est fort ce Paul. Il est sourdoué et c'est le meilleur de sa génération, plus avancé que les autres de sa génération. Il a été, le CV, il a été chez Gamaliel. Et pourtant, ce n'est pas ça qui va rester de la fin de sa vie. Il a même quoi de plus que les autres? C'est un citoyen romain. Voilà un homme qui a tout pour réussir. Tout pour être, quoi? Le meilleur de sa génération. Culturellement, de son origine et par son expérience. Tout pour être bien vu. Et il aurait pu se définir par toutes ces choses. Je suis ce que je suis et je suis Saul de Tarse. Parce qu'à cette époque-là, on l'appelait pas Paul, mais on l'appelait comment ? Saul. Et est-ce que vous savez ce que signifie Saul ? C'est son nom d'origine. Saul, c'est celui qu'on a demandé, qu'on a souhaité. Hein, ça fait peut-être un peu référence au roi Saül, c'est celui que le peuple a demandé. Et Saul de Tarse, c'est celui peut-être que les Juifs ont demandé. Il nous faut des hommes comme Saul, des personnes qui soient comment ? Instruits totalement au pied de Gamaliel, qui soient des surdoués, des personnes qui connaissent par cœur la loi de Dieu, des Juifs du peuple élu. Et c'est ce que nous avons besoin, des personnes eh bien, qui ont tout pour plaire. Et parfois, dans l'Église, nous sommes comme ça. Nous regardons les gens avec leurs capacités. Oh, oh, qu'est-ce qu'il a un bon CV. Oh, c'est incroyable. Cette personne-là, c'est un surdoué. Il connaît plein de versets. Il fait plein de ceci. Bla, 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 bla. Et on se dit, c'est l'homme idéal. Un Saul. C'est celui qu'on avait demandé. Celui qu'on a souhaité. Un petit prodige. Mais vous savez, aujourd'hui, Saul, il n'est pas connu. Saul de Tarse n'est pas connu sous le nom de Saul de Tarse. Il est connu sous le nom de Paul de Tarse. Et c'est très intéressant si vous savez ce que signifie Paul. Paul, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire ? Paul signifie petit, faible. Le faible de Tarse. Le petit de Tarse. Il est passé de superstar, celui qu'on voulait, à petit Paul. Petit de Tarse. Et c'est un petit peu ça, sa vie, c'est qu'il s'est regardé auparavant comme étant grand. Et c'est comme ça que les gens le voyaient. Mais aujourd'hui, sous le regard de Dieu, il se voit comment ? Petit. Un Paul. Un avorton. Indigne d'être appelé apôtre. Pourtant, avant, il était digne d'être quoi ? Le bras droit du Sanhédrin. L'envoyé des hommes, l'envoyé des Juifs. Exécutant les missions spéciales. Maintenant, il se voit, non, je suis indigne. Et auparavant, le résultat de son ministère, c'est quoi ? La persécution de l'Église de Dieu. La persécution du Seigneur. Maintenant, en devenant petit, il devient l'apôtre, celui qui aime ceux qui le persécutent. Et dans notre Église, c'est ainsi que nous devrions tous nous voir, des petits. Si nous nous voyons comme grands, nous ferons du mal et nous persécuterons. Si nous nous voyons comme le regard de Dieu nous voit petits, nous serons aimés les autres. Vous savez, un pécheur, lorsqu'il voit vraiment Dieu, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, il ne peut avoir qu'un constat. Je suis ce que je suis, un pécheur faible, un Paul, un petit. Ce qui était la fierté de Paul, ce qui faisait que sa vie était droite, bâtie, ce qui faisait ce qu'il était, eh bien, dans ce texte, on le voit que ça n'a plus de valeur pour lui. Et dans un autre texte, il dit que toutes ces choses passées, il les considère comme quoi ? Comme de la boue. aucune valeur. Et nous, nous sommes tellement parfois attachés à notre passé. Je suis français, je suis malgache, je suis protestant, catholique, je suis... Non, ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faut savoir ce qu'on est sous le regard de Dieu. Et sous le regard de Dieu, nous sommes d'abord des pécheurs. Et nous sommes petits. Peu importe le passé, l'expérience, l'origine ou la culture. Paul dit « Je suis ce que je suis ». Et s'il doit être quelqu'un d'autre, eh bien il va dire cette phrase « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Non pas par mes origines, ni par mes expériences, ni ma culture, mais par quoi ? Par la grâce de Dieu. Partagez-vous le regard de Dieu sur votre vie ? Ou vous regardez-vous comme digne ? Quelle est votre fierté ? Lorsque vous devez vous définir, est-ce que c'est la vie que vous vous êtes construite ou la grâce de Dieu qui définit ce que vous êtes ? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dieu nous voit comme des pécheurs. Et on aurait pu se résigner sur ce point. Bon, ben, je suis ce que je suis. Pauvre de moi, petit pécheur. Parfois, vous avez des personnes qui vous disent « Priez pour moi parce que je suis un pécheur. » Oui. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, je peux être vu autrement. Avoir une autre vie. Comme Paul, passer de Saul, qui vit sans la grâce, à Paul, qui vit par la grâce. Ce Paul qui aujourd'hui amène cette grâce auprès même des Corinthiens. Mais c'est quoi la grâce de Dieu ? Paul nous l'a rappelé. Ce sont les versets que Fabrice a lus la dernière fois, les versets précédents, versets 3 et 4, qu'on peut lire. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Oh, la grâce de Dieu, déjà, une chose est sûre, c'est qu'on les trouve dans l'Écriture. Parce que c'est selon les Écritures. Et selon les Écritures, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que Paul a reçu ? Parce qu'il l'a d'abord reçu avant d'enseigner. Parce que s'il ne l'a pas reçu, il ne peut pas comprendre. Et on la voit qu'il l'a reçu. Il est passé de Saul à Paul. Et une vie nouvelle. Mais comment il l'a eu ? Il le dit. Christ est mort pour nos péchés. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, eh bien, d'accéder à la grâce de Dieu ? Ce sont nos péchés. Voilà pourquoi le problème est résolu. Comment ? Parce que Christ est mort pour les péchés. Et comment on peut vivre cette nouvelle vie ? Parce que Christ est mort pour nos péchés. Mais non seulement il est mort, mais il est dit quoi ? Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, de sorte que nous pouvons vivre cette vie nouvelle. Et c'est ça la grâce, vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a vaincu cette mort. Il a payé pour nos péchés. Et maintenant, nous sommes libres d'avoir une vie qui est différente de celle d'avant. Saul et Paul sont deux personnes totalement différentes. Si vous rencontrez Saul et que vous rencontrez Paul à la fin de sa vie, vous dites, peut-être le visage est le même, mais c'est pas du tout la même personne. Et si la grâce de Dieu vient dans notre vie, on ne devrait pas être la même personne. Considérons quelle sera la fin de notre vie. Est-ce que c'est les mêmes qu'au début ? Si c'est le cas, c'est qu'il y a un souci. Chers Corinthiens, chers chrétiens, sans Christ crucifié, vous seriez toujours dans vos péchés. Sans Christ crucifié, vous n'aurez pas de vie nouvelle. La grâce de Dieu, eh bien, c'est de nous purifier de nos péchés. La grâce de Dieu, c'est de nous donner une vie nouvelle, par son esprit vivant en nous. C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes libres du péché. Et d'agir comment ? Dans une vie nouvelle, une vie qui ressemble à celle de Jésus-Christ. Et bon, voilà, c'est un point que les Corinthiens ont oublié. Et c'est un point que nous oublions aussi. Les Corinthiens ont commencé par l'évangile, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ils sont ce qu'ils sont, sauvés. Mais aujourd'hui, leur manière d'agir, c'est par le mérite de l'homme, je suis ce que je suis. Je suis digne de ce que je suis. Je mérite de faire ceci ou cela dans l'Église. Je mérite mes dons. Et cela se constate dans les ministères qu'ils accomplissent, on l'a vu au chapitre 12. Paul doit rappeler ce qui a toujours été vrai. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est une grâce d'accomplir ce qu'ils accomplissent, leur ministère et tout. Il le rappelle à Corinthiens 12, verset 11. Mais en quoi c'est une grâce ? Comment est-ce que c'est une grâce ? 1 Corinthiens 12, 11, nous dit quoi ? Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Est-ce que c'est parce qu'on a demandé ? Est-ce que c'est parce que c'est ce qu'on voulait ? Est-ce que c'est parce que c'est nous qui avons choisi ? Il dit quoi ? Qui opère ces choses ? C'est un seul et même esprit. Donc ça ne vient pas de nous. Et il dit quoi encore ? C'est ce même esprit qui distribue à chacun en particulier comme il veut. Donc c'est même pas comme on voulait. C'est comme il veut. Et notre esprit, notre capacité à œuvrer dans les ministères de Dieu dépend uniquement de l'Esprit. C'est lui qui opère tout dans les ministères, c'est lui qui les accomplit, c'est la grâce de Dieu. Parce que qui peut être agréable à Dieu ? Qui peut servir Dieu ? Personne. Et c'est ce que Paul dit, je suis indigne d'être appelé un apôtre, je ne peux pas faire ce travail. Il est indigne, il n'a pas la capacité. Mais par l'Esprit de Dieu, c'est possible. C'est pour ça qu'après tout son travail, va expliquer, hein, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc la gloire est à qui ? Non pas à moi, mais à qui ? À Dieu qui est avec moi, à son esprit qui travaille en moi. Mais lorsque nous agissons selon nos forces, ou selon ce qui nous plaît, par notre intelligence, sans la parole, nous allons dire que la gloire est à qui ? À celui qui a concocté l'idée ? À celui qui a travaillé avec son intelligence et celui qui a choisi ce qui lui plaît. La gloire est à l'homme. Et quand on voit dans cette église de Corinthe, ils recherchaient la gloire de qui ? Et c'est ça leur problème, leur gloire personnelle, la gloire de l'homme. Chacun avait son ministère et chacun voulait sa gloire, jugeant le travail des autres comme moins important que le leur. Le leur, il est plus grand, plus utile, mieux fait. Personne ne se regardait comme petit, comme Paul. Dans l'église de Corinthe, chacun regardait son rôle comme indispensable. À moi tout seul, je suffis à l'église. Je suis l'œil, je n'ai pas besoin de la main. Je suis la tête, je n'ai pas besoin des pieds. Et il le dit, verset 12-21, « Je n'ai pas besoin de vous. » C'est la manière d'agir des Corinthiens dans l'église. « J'ai besoin de personne. Je me suffis, j'ai le don. » Parfait. « Je suis fort. Par ma force, je suis ce que je suis. » Ils ont commencé par la grâce et ils finissent par ma force, leur force. Mais nous devrions toujours être capables de dire par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Parfois on oublie le départ et on pense que quand on parle de la grâce, c'est juste pour nous justifier. Et la sanctification, on le vit par nos propres forces. Hein, vous rappelez ce verset Éphésiens 2, 8, 10, c'est toujours Paul qui le dit, mais je reprends un verset extérieur. Éphésiens 2, 8, 10, qui nous dit quoi ? Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, quand même déjà une chose simple, ce qui nous sauve, si nous sommes sauvés, c'est par grâce. C'est par grâce que je suis ce que je suis, sauvé. Et ça vient de quoi ? Quel moyen ? De la foi. C'est le moyen. C'est-à-dire qu'il faut cette foi en quoi ? En la parole de Dieu. Et donc, ça ne vient pas de qui ? De vous. C'est pour ça que c'est un don de Dieu. Et c'est pour ça que notre vie nouvelle, ça ne peut pas venir de nous, de notre force. Ça doit venir de Dieu, de sa parole, de son esprit. Et non pas par les œuvres, par notre capacité à faire. Pourquoi ? Afin que personne ne se glorifie. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui se glorifient en pensant que c'est eux, c'est moi, je suis un prophète, j'ai fait un bon message, j'ai bien joué au piano, j'ai bien chanté, j'ai bien fait ceci, j'ai bien annoncé la parole de Dieu, j'ai eu les bons mots là, etc. Non, gloire à qui ? Gloire à Dieu. Parce que qui nous a forgés ? C'est ce qui dit la suite. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, qui nous modèle dans cette foi, par cette parole, par cet esprit vivifiant? Eh bien, c'est Dieu. En Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Et les œuvres bonnes, elles ne se pratiquent pour ceux qui sont modelés en Jésus-Christ. Mais c'est encore pire, ce sont de bonnes œuvres qu'on ne cherche même pas. Il dit quoi ? Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans alors ? Les œuvres, ils sont déjà là. Dieu les a préparées. C'est lui qui nous modèle. Et si nous sommes sauvés, ça ne vient pas de nous, c'est son don. Donc gloire à Dieu. Et nous, nous avons à faire quoi ? Eh bien, à vivre sous cette grâce. À nous regarder comme petits. La grâce, c'est cette vie nouvelle que Dieu nous donne, une vie qui est entre ses mains. Une vie qui n'est pas en nous, qui ne vient pas de nous. Mais cela vient de Dieu, c'est le don de Dieu. Nous devons donc être, lorsque nous vivons sous la grâce, totalement tributaires de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ et de Dieu qui donne. Et j'espère que si notre manière de vivre, alors quand les Corinthiens se glorifient, de leur don, de leur capacité à prophétiser, à enseigner, parler diverses langues, faire des miracles, guérir, diriger. Ils oublient que c'est une grâce et que cela ne vient pas de nous. Notre problème ressemble souvent à ceux des Corinthiens. Nous commençons par la grâce et nous basculons à une vie méritoire. Une vie selon nos propres capacités, nos propres forces, oubliant que la nouvelle vie en Jésus-Christ se vit par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Et ce qui vient de nous, ce sont des œuvres qui ne plaisent pas à Dieu. Mais par la grâce de Dieu, par sa grâce uniquement, nous pouvons plaire à Dieu. Et ce sont les œuvres de l'Esprit. Et c'est uniquement lorsque l'Esprit œuvre que Dieu est satisfait. Et c'est ce que nous avons vu au chapitre 13. Il nous demande d'œuvrer par son Esprit, il nous donne la voie par excellence. De quelle manière est-ce qu'on œuvre par l'Esprit ? Eh bien, la voie par l'excellence, c'est l'amour, sans lequel ce que l'on fait n'est rien, sans lequel, si je dis je suis ce que je suis, ça veut dire je ne suis rien, sans l'amour. Car c'est l'amour qui édifie, l'amour que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Est-ce que comme les Corinthiens, la grâce de Dieu est devenue un souvenir à rappeler dans vos vies, ou est-ce par elle que vous vivez toujours votre vie aujourd'hui ? Par la grâce de Dieu, nous dira 1 Corinthiens 15:10. Je relis ce passage. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Que la grâce de Dieu ne soit pas vaine et qu'elle vous accompagne toujours. Quand la grâce de Dieu présente, vous n'êtes pas oisif. Paul ici indique avoir travaillé plus que tous les autres apôtres. Et il faut le dire quand même quand on lit la Bible, la place que Dieu a laissée pour montrer que la vie de Paul était agréable pour lui. Quand vous prenez Actes, il y a quand même une grande majorité, qui est-ce que l'on voit dedans ? On voit beaucoup Paul quand même. On voit beaucoup de ce qu'il a fait. Mais quand on regarde même tous les textes qui sont enseignés dans le Nouveau Testament, il y a quand même une très grande partie qui ont été écrites par qui ? Par Paul. Et c'est un constat. Quand il dit cela, Paul, ça peut paraître, mais quand même, il ose dire ça. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est aussi ce qu'il est validé dans la parole de Dieu. Il a travaillé plus que tous. Un constat. Mais il dit quand même non, pas à lui. Mais il attribue cela à quoi ? À qui ? À la grâce de Dieu qui est avec lui. Donc il rappelle que celui qui se soumet à la grâce de Dieu, il ne laissera jamais oisif. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu qui agissait, oui, c'est sûr qu'on pourrait penser que Paul est arrogant. Ah tiens, c'est peut-être Saul qui revient. Non, pas du tout. il est petit. Et il reconnaît dans tout cela que, avec la grâce de Dieu, il a fait plus que ce que peut-être il aurait pu faire en étant seul, sans la grâce de Dieu. L'Esprit a confié à Paul une mission qui demande beaucoup de travail et d'investissement. Et lorsque l'Esprit distribue, on devrait juste mettre en pratique ce qu'il nous a donné. On devrait juste vivre la vie qu'il nous a donnée. Et Dieu s'occupera. Eh bien, la grâce de Dieu s'occupera de quoi ? De travailler pour nous dans tout ce que nous faisons. Ce qui est vrai pour Paul est vrai pour nous aussi. C'est cette grâce qu'il vit, que nous partageons avec lui, si nous avons cru en l'Évangile. Et la grâce de Dieu ne doit pas être vaine. On l'a vu, hein, nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Si la grâce de Dieu est avec nous, laissons cette grâce opérer par son esprit, par sa parole. Alors pour conclure, oui, le titre de ce message, on peut le dire, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Mais est-ce que c'est avec ces mots, cette phrase, que nous caractérisons aussi ce que nous sommes? Rappelez-vous de la question de départ. C'est une question qui est simple. Qu'est-ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez répondre, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis? Sommes-nous prêts à conclure cette conclusion de Paul et nous dire, moi aussi je veux faire comme Paul, un homme qui vit par la grâce de Dieu? Nous sommes-nous plutôt de ceux qui se disent, je préfère me résigner et rester dans l'état dans lequel je suis? C'est la vie, tant pis. Ou de ceux qui se disent, je vais me battre pour devenir quelqu'un, je suis capable de devenir ce que je veux. Œuvrer pour le Seigneur, c'est d'abord œuvrer par le Seigneur. Je répète, œuvrer pour le Seigneur, c'est d'abord œuvrer par le Seigneur, agir par son esprit, par sa parole, par la grâce de Dieu. Une grâce qui nous pousse à travailler dans la voie de Dieu, la voie par excellence, l'amour. Prête à offrir sa vie en spectacle pour faire avancer l'Évangile. Et est-ce qu'on peut dire que Paul a offert sa vie en spectacle? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Il parle de ses souffrances, il nous parle de ses joies, des peines, il nous parle de, surtout, sa vie dans l'Évangile. Rappelons les deux phrases qui devraient qualifier notre vie et que Paul nous appelle à faire. Vivez par l'Évangile, c'est par elle que je vis. Paul nous le témoigne. Il n'est plus Saul, il ne vit plus par sa force. Il est petit, il est Paul. Vivez pour l'Évangile, c'est pour elle que je vis. Paul nous le témoigne aussi. Il expose ses faiblesses pour que l'Évangile soit reçu de tous. Parfois, on peut se tromper de prédication. En effet, dans la lettre de 1 Corinthiens, on pourrait essayer de s'éparpiller, s'attarder sur des divergences, s'attarder peut-être à des points qui ne sont pas le but de ce livre. Mais ce livre a un but, et il le dit, hein. Il prêche la même chose. Que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Et qu'est-ce qu'ils ont prêché ? La grâce de Dieu. Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour que les vies soient transformées, changées. Et c'est l'amour de Dieu. Alors j'espère que chacun aujourd'hui peut dire, j'ai reçu l'amour de Dieu. Et donc, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen.